voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Alain Kruger rencontre Michel Oliver. Ce soir, l'art d'être petit-fils et fils de grand chef.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Michel Oliver. Nous allons faire 5 voyages dans une famille mythologique de la gastronomie française qui a un peu inauguré aussi les arts de la table et la cuisine dans les médias. Ce qui serait bien, c'est de commencer par descendre de l'arbre, de cet arbre généalogique assez phénoménal. On commence par qui ?
Par grand-père, évidemment. Par Louis Oliver. Nous sommes d'origine majorquaine. Sûrement d'un petit village qui s'appelle Solières, où la moitié de la population s'appelle d'ailleurs Oliver, donc c'est pas un vrai problème. Et la légende raconte que le père de Louis Oliver, donc l'arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, il avait 3 enfants. Et un jour, il leur a dit, c'était un caractériel, un homme assez étonnant, il leur a dit, voilà, je ne veux plus vous voir. Vous êtes grand maintenant. L'aîné devait avoir 15 ans, 14 ans et 13 ans. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux faire à la fille aînée? Moi, je veux être écrivain. Et elle est devenue Fanny Clarke, écrivain, totalement anarchiste. Et le second a dit, moi, je veux être photographe. Et puis le dernier, grand-père, il avait toujours faim. Et il s'est dit, mais quel est le métier où je peux manger à ma faim? Il a dit, je vais être cuisinier. Très bien. On lui a fait des études de cuisine à Paris. Et il est parti très rapidement en Angleterre. On disait qu'il était chef saucier de M. Escoffier au Savoy à Londres. Je ne crois pas que ce soit vrai. Il a remplacé, quand M. Escoffier a quitté le Savoy, il a fait partie de l'équipe qui a remplacé Escoffier. Il était là. Et puis, quand même, Londres, tout ça, il a dit « je rentre en France ». Et là, il est devenu chef de maison particulière. Alors, de quelle maison particulière ? Il a été chef chez le marquis d'Alcedo. Et à la mort du marquis d'Alcedo, il devient chef de l'ambassadeur d'Espagne qui s'appelait M. Quiñones de León. Et là, il a 28 ans. Et il lit une petite annonce sur les journaux locaux de notre métier. Il lit « jeune fille à marier, hôtel en dot ». Il écrit. Et c'est lui qui est admis. Et il débarque dans cette petite ville de Langon, dans le sud-ouest, qui est le cœur du Sauternais. Il avait toujours des chaussures vernies, il avait des moustaches très en croc, comme ça, magnifiques à la Dali. Et à l'instant même où il a vu grand-mère, il en est tombé follement amoureux. Et il a dit, je veux la fille, je refuse l'hôtel. C'est assez extraordinaire. Et le voilà qui ouvre dans Langon, un tout petit restaurant avec la salle au premier étage. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette famille qu'il a épousée, quelque part, était aussi célèbre. Elle était célèbre parce que dedans, il y avait l'arrière-grand-père. Et cet arrière-grand-père était une force de la nature. Il mesurait 1,90 m, il pesait 140 kilos et il était sparring partner du champion du monde de lutte. Oui, c'était un personnage étonnant. Son truc à lui, c'était de prendre une barrique pleine et de la soulever. La dernière barrique qu'il a prise un peu trop tard, il a fait une éventration, il en est mort. Et à son enterrement, il s'est passé une chose merveilleuse quand même. Les amis se sont réunis pour savoir qui irait dire à la veuve combien il le regrettait. Et celui qui a été choisi, s'est resté dans la famille, est arrivé. Il a dit, c'était un grand monsieur. Il ne savait pas travailler. C'est magnifique. Il ne savait pas travailler. Il ne travaillait pas. Il était en représentation permanente. Et c'est lui qu'on appelait l'assassin. Bon, le restaurant était au premier étage. Et puis, il y a la fête à Langon, la grande fête, comme tous les ans, la fête à Saint-Michel. Et il y a les manèges qui sont là, les lutteurs de foire, etc., etc. Et mon arrière-grand-mère, qui était une mignonne, ils étaient jeunes, elle va porter un plat qui traîne dans la cuisine. Et le champion des lutteurs a un geste un peu déplacé, elle appelle évidemment son mari qui arrive et dit « qu'est-ce que tu as fait là ? Tu veux te battre ?» Et oui, il voulait se battre, comme on arrive. Bien sûr qu'il voulait se battre. Il se bat et il le balance par la fenêtre. Il a oublié qu'il était au premier étage. Le mec est mort. Mais c'était rien, c'était un petit accident qui s'est passé comme ça. Voilà pourquoi, en douce, tout doucement, on l'appelait l'assassin. Mais si jamais ça arrivait aux oreilles de ma grand-mère, ça, j'ai assisté à ça quand mon père voulait la mettre en rage, elle disait ça. Comment, mon père, mais tu n'as pas le droit de dire ça? C'était magnifique.
Donc, ce grand-père, quel était son prénom?
Louis. Louis Oliver. Alors, il s'est passé une chose extraordinaire. Donc, cet amour qu'il avait pour Cécile, sa femme, ma grand-mère, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vécu toute leur vie, dans une chambre d'hôtel, une petite chambre d'hôtel, et tous leurs trésors, tous leurs vêtements tenaient dans l'armoire en face de leur lit. Mon grand-père avait un costume, et ma grand-mère avait plusieurs petites tenues légères et une seule tenue de sortie. Toute leur vie s'est passée là. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est que il ne s'est pas passé un jour de la vie de mon grand-père où il n'a pas réveillé grand-mère le matin avec un bouquet de fleurs à la main. Tous les jours, il montait à grand-mère son petit déjeuner avec un bouquet de fleurs, ou au moins une rose sur le... Ça m'a bluffé.
Et alors, quelle était sa cuisine à ce grand-père qui avait...
C'était une immense cuisine, puisque c'était la cuisine des grands palaces. C'était la cuisine d'Escoffier. Moi, j'assistais à la saison de la chasse. Il y avait toujours un chasseur qui amenait un lièvre en disant, grand-père, est-ce que vous pouvez me faire un lièvre à la royale? La fameuse recette du lièvre à la royale. Et à côté de l'hôtel, à 50 mètres, il y avait le café commercial. Et les chasseurs qui avaient chassé ce lièvre, qu'ils avaient amené à grand-père, dès le lundi, il y en avait un qui avait le droit de venir humer ce qui se passait dans cette cocotte qui était en train de flop-flopper tout au bout de la cuisinière. Ça durait des journées entières. Il avait créé, sans le savoir, la cuisson en basse température. C'était et alors, il revenait voir ses copains et il racontait. Parce qu'il, et alors, aujourd'hui, maintenant, le foie gras a été mis et la sauce est en train de prendre sa couleur. Et quand le jour arrivait, c'était extraordinaire.
Est-ce que vous vous souvenez comment il préparait ce lièvre à la royale, votre grand-père?
Ah, ben la recette de grand-père, non, on peut pas vous la raconter. C'est une recette. Ça dure une semaine, la recette de grand-père. Mais c'est fabuleux. Je vous dis juste le départ de la recette. Mettez à mariner pendant 8 jours dans une terrine 2 beaux foies d'oie avec cognac, porto, 4 épices et poivre de Cayenne. Pendant 8 jours et tous les jours. Vous retournez le foie, vous l'arrosez. Les foies ne sont pas ni dénervées, ni trempées dans de l'eau salée. Ils sont entières, telles quelles. Voilà, le départ de la recette, 8 jours. Et ça ne fait que commencer. Hein. Je fais tous les restaurants de Paris où il y a du lièvre à la royale. Je ne peux pas m'en empêcher. J'adore ça. Et je goûte des sublimes. Et je goûte des moins bons parce que les moins bons, c'est ceux qui le coupent une fois qu'ils ont désossé et qu'ils ont fait ce gros boudin. Et il vous le serve, il le réchauffe au moment au micro-ondes, il le coupe en tranches avec un peu de sauce dessus. C'est pas ça, le lièvre à la royale.
Ben
on
non.
Doit pouvoir y aller avec la cuillère et prendre là-dedans. Et ça, c'est extraordinaire. Ça le massacre. Mais c'est ça, la vraie cuisine. C'est ça, c'est cette espèce de partage et non pas de tranche. Et alors, grand-père, il avait une particularité, c'est qu'il dormait peu. On avait un hôtel, tout petit hôtel, il y avait 10 chambres, pas plus. Il ne supportait pas qu'un client dorme quand il était réveillé. Alors son grand truc, il commençait à rallumer le fourneau, feu. En faisant, vous savez, les ronds du fourneau qu'on enlève, il faisait du bruit et tout, etc. Et il allait voir dans le jardin s'il y avait des fenêtres éteintes.
La cuisinière, c'est une cuisinière à gaz, c'est une cuisinière à charbon.
C'est à charbon. Bien sûr. Le gaz n'existait pas plus qu'il n'y avait d'électricité pour les frigos. Tous les matins, les blocs de glace étaient livrés devant le resto. C'est moi qui les rentrais quand j'étais là. Et on vidait entièrement espèce de chambre froide, qui était en fait un très gros frigo en bois. On le vidait entièrement pour tout remettre dedans. Grand-père était d'une méticulosité là-dessus invraisemblable. C'était l'archaïsme le plus total. Et pour la glace, on avait la machine à main, c'est-à-dire que on mettait le liquide, le lait, etc., l'appareil tout prêt dedans, on mettait la glace, on fermait, on remettait la glace dessus et on fermait avec du gras pour qu'il n'y ait surtout pas du tout de choses qui s'en aillent. Et je tournais la machine pendant une demi-heure, quoi, jusqu'à ce que ça devienne tellement dur qu'on ne peut plus. Et là, on sortait la glace. C'était très, très pénible.
Mais est-ce qu'il vous dit, Michel Oliver, est-ce qu'il vous dit déjà que la cuisine est un jeu d'enfant ?
Oh non. Non,
pas encore.
Non, il m'avait fait un énorme coup avant, qui consistait... Il était en train de faire des tartes. Il était un gamme à ce moment-là. Moi, j'étais dans ses pattes, je devais avoir 7-8 ans. Et grand-père, moi aussi, je vais faire une tarte. Très bien, mais tu prends un bout de pâte, tu l'étales et puis tu le mets au four, mais tu le surveilles bien. D'accord, grand-père. Alors j'ai mis mon pâte au four et puis bien sûr, comme un môme, j'étais parti. Je n'étais pas resté là à attendre, j'étais parti jouer. Il m'avait appelé et à un moment, il m'a dit « Michel, viens vite, ça doit être cuit, ouvre le four. » Et il avait remplacé ma tarte par un morceau de charbon. Mais c'est pas drôle, j'ai ouvert ça, j'ai pleuré. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment surveiller ce qu'on faisait. Ça, il avait cet homme qui parlait pas beaucoup, mais les leçons qu'il vous donnait étaient tellement immenses qu'on ne pouvait pas les oublier et qu'on ne pouvait pas agir autrement que bien.
Vous avez 14 ans, c'est-à-dire que vous êtes né en 1932.
Ouais. Hein?
Donc, 14 ans, on est juste avant la guerre.
On est juste avant la guerre. Et c'est là qu'est arrivée cette fameuse histoire de l'omelette. L'histoire de l'omelette s'est passée au mois d'août. J'étais donc en vacances, puisque j'étais un écolier. Et grand-père voulait, pour m'apprendre le respect du travail manuel, il me faisait faire le travail d'arpète. Et c'était le mois d'août, il faisait une chaleur. Grand-père était paralysé, à cette époque-là, c'était la fin de sa vie. Il était sur un fauteuil roulant dans la cuisine et moi qui étais en train de nettoyer le fourneau, comme après chaque service, on nettoie les fourneaux, même quand ils sont très chauds, hein, je peux vous dire qu'on suit dessus. Il était 14h30, arrive un couple. « Oh, monsieur Oliver, on avait réservé chez vous, mais on a crevé sur la route en rentrant d'Andaï. Est-ce que vous pouvez nous servir ?»« Mais rien, un foie gras, une omelette. » Et grand-père leur dit « Oui, allez vous installer dans le jardin. » Ah, le foie gras, c'est pas un problème. Je sais le couper. Un couteau chaud, on le coupe, on fait les toasts, tout va bien. Mais l'omelette. J'avais assisté à des concours de cuisine entre mon père et mon grand-père, où tous les deux prenaient les mêmes œufs, le même beurre, la même huile, la même poêle, le même feu, faisaient deux omelettes absolument semblables à deux goûts totalement différents. Ah ! Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui se passe ailleurs que dans la main. J'ai commencé à comprendre que la cuisine, c'était autre chose que la cuisine. Que c'était quelque part un acte d'amour, une façon de donner aux autres ce qu'on a. Et personne n'a la même chose à donner, bien évidemment. Donc, l'omelette. J'ai dit, grand-père, je peux pas faire une omelette. Mais il me dit, la question n'est pas là. Il me dit, allez, tu casses les œufs dans le bol. 3 œufs. Non, c'était 5 œufs. Tu mets une pincée de sel sur chaque jaune. Comme ça, tu es sûr que ton omelette sera bien salée. Plus une pincée pour la poêle. Ça s'appelle comme ça. Tu commences à battre tes œufs. Tu soulèves bien la masse de façon à faire rentrer le maximum d'air avec ta fourchette dans les œufs. Je fais tout ça. Il me dit, maintenant, enlève les ronds du fourneau, de façon à ce qu'il y ait contact direct avec la braise du fourneau. Mets ta poêle, parce qu'on avait une poêle à omelette, qui ne servait qu'à ça. On ne peut pas vous raconter comment on crée une poêle à omelette, mais c'est tout à fait spécial. C'est une poêle en fer, comme toutes les poêles ordinaires. On commence par la mettre sur le feu, avec de l'huile dedans. On brûle l'huile. Une fois qu'on a brûlé l'huile, on jette cette huile, on met à la place dans la poêle, toujours sur le feu, très fort, du gros sel. Et quand le sel commence à crépiter, à sauter, avec un vieux torchon, on frotte la poêle. Et quand ce sel est devenu marron, on l'enlève, à nouveau, on essuie la poêle, à nouveau, on la huile une dernière fois, et c'est fini. Cette poêle ne collera plus jamais. C'est ça, une poêle à omelette. Bien sûr, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a des poêles qui ne collent plus jamais, naturellement. Donc, je reviens à mon grand-père.
Et à votre omelette.
Et à mon omelette. Et là, J'ai dit, mais grand-père, il m'a dit, t'occupe de rien. Mets la poêle dedans, tu mets ton beurre et ton huile, tu sais que l'huile va empêcher le beurre de brûler. Oui, grand-père. Tu me dis si le beurre commence à frétiller. Oui, ça y est, grand-père. Prends-moi sous les bras. J'ai soulevé cet homme qui était paralysé dans son fauteuil roulant. Je l'ai pris, collé à moi. Je l'ai amené devant le fourneau. Et là, il a fait l'omelette. Et alors la question que je me pose depuis, c'est est-ce qu'il a fait l'omelette pour les clients ou pour moi? Et c'est une omelette qui me marque à jamais.
Ils l'ont finie, elle était...
Elle était sublimissime, comment voulez-vous qu'elle soit? En plus, il n'avait pas fait d'omelette depuis longtemps, donc pour lui, retoucher à son fourneau, ça a été un moment de grâce. Ça ne pouvait pas être autre chose.
J'aimerais réussir à les goûter, c'est très radiophonique de goûter une omelette.
Le principe d'une omelette est tout simple, c'est qu'il faut que il n'y ait pas une ride sur une omelette. S'il y a une ride, c'est que ce n'est pas un grand chef qui l'a faite. Qu'il n'y ait pas une seule ride, qu'elle soit luisante, qu'elle soit roulée au centre, dodue au centre et pointue au debout. Et quand vous la partagez en deux, il faut que l'intérieur soit... les œufs soient encore humides, un peu plus qu'humides. Il faut que ce soit, comment dirais-je, il faut que vous puissiez écraser l'omelette entre la langue et le palais pour en faire sortir tous les parfums. Ça se mâche pas, une omelette. Ça s'écrase comme ça et après ça se mâche. Mais d'abord, ça tous fait. Les parfums arrivent et après, on l'a fini.
Ça reste toujours... Le test de l'omelette pour un cuisinier, ça reste toujours
aujourd'hui,
le test de
je
référence.
Ne sais pas. J'étais étonné, j'ai vu les émissions qui se passent aujourd'hui, vous savez, sur Top Chef et tout ça. Ils ont une omelette à faire, ces jeunes. Pas un seul n'a été capable de faire qu'un semblant d'omelette. Ça m'avait laissé sans voix. Eh bien, parce qu'ils ne savaient pas la faire. Simplement, on leur avait pas appris, parce que aujourd'hui, une omelette, ça devient... Mon grand-père, la seule chose qu'il demandait quand il engageait un cuisinier, c'était « fais-moi une omelette ». C'était son test. Aujourd'hui, vous demandez... Si vous faites ça, vous n'engagez plus personne.
Et vous la faites toujours comme votre grand-père les faisait quand vous aviez 14 ans ?
J'ai eu la chance, quand j'ai commencé mes stages de cuisine, quand j'étais à l'école hôtelière, mon premier stage, je l'ai fait à la réserve de Beaulieu et on m'avait mis à ce qu'on appelle l'entremets. C'est les soupes, c'est tout ça. J'étais aux omelettes. Donc j'ai fait pendant tout l'été des centaines d'omelettes et je suis revenu très fier. Et j'ai dit à papa, je sais faire une omelette. Ah, c'était pour moi, c'était le maximum. Brusquement, je reliais la famille.
C'était évident, la cuisine, pour vous ? C'était une évidence ?
Mais pas du tout. Non. Vous savez, quand vous voyez devant vous deux monstres sacrés, comme mon père et mon grand-père, vous vous dites, je ne peux pas toucher à ce métier, puisque de toute façon, je ne pourrais pas faire mieux qu'eux. C'est terrible de se dire ça. Donc j'ai tout fait pour ne pas faire la cuisine. Mais puis voilà, et puis j'ai raté lamentablement mon bac. Et le jour où j'ai raté mon bac, mais je comprends pas pourquoi j'ai raté mon bac, parce que j'avais fait latin grec, j'étais élevé chez les jésuites à Sarlat, et
fils d'institutrice.
La version grecque que moi j'avais traduite était tellement belle, mais elle n'avait rien à voir avec le sujet. Mais c'était tellement beau que je ne comprends pas que l'examinateur ne m'ait pas mis une bonne note en disant « Ah, qu'est-ce qu'il a comme talent, ce jeune homme ?» Non, rien, j'ai eu un zéro pointé. Ça a été la honte de ma vie. Donc, le jour...
Et votre père, il avait une vocation de cuisinier ?
Il avait une vocation de pâtissier. Au départ, c'était... Ma mère disait, ton père est le meilleur pâtissier que j'ai connu. Et quand il a travaillé avec mon grand-père, c'était mon père qui s'occupait de la pâtisserie.
Il s'était destiné, dès le départ, à être cuisinier ?
Je sais pas, il me l'a pas dit, mais je pense pas. Il est un autodidacte complet.
Michel Oliver, il me semble que vous m'aviez dit que votre père voulait être architecte.
Oui.
C'est comme Antonin Carême, le goût de la relation entre l'architecture non. et la pâtisserie.
Non, parce que mon père, justement...
Il dessinait des gâteaux ?
Non, il dessinait pas. Et puis, il avait une théorie. Il n'aimait pas du tout le décor dans les plats. Il disait, et je pense qu'il a raison, et j'applique cette technique, toute seconde perdue à la présentation d'un plat est une seconde perdue pour sa qualité à l'arrivée devant le client. C'est une logique imparable. Si vous terminez un plat et que vous passez 5 minutes à le décorer, il arrive tiède. Ou alors il faut le réchauffer. Et c'est pas ça la cuisine. La cuisine, c'est la transmission immédiate. C'est le bonheur tout de suite, là. C'est fait, je te le donne, c'est à toi.
Michel Oliver, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu votre père Raymond Oliver cuisiner ?
Je l'ai vu assez tard, mais j'étais complètement bluffé parce que mon père avait une habileté manuelle totalement diabolique. Il désossait un poulet en moins d'une minute et il utilisait des scalpels pour le faire. Moi, ça m'a complètement bluffé. Tout ce qui passait entre ses mains, ça devenait facile. Moi, je regardais ça fasciné. Je vais le refaire. Pas du tout. C'était impossible à refaire. Il avait cette espèce de don que tous les gestes s'enchaînaient.
Donc les concours d'omelettes se faisaient à quelle occasion ?
Ah, ils se faisaient quand il venait. Parce qu'il venait, bien sûr, mais il restait pas. De toute façon, Louis ne l'aurait pas accepté en cuisine avec lui. Parce qu'il travaillait pas de la même façon. Mon père était donc un cuisinier d'instinct, alors que mon grand-père était un cuisinier école escoffier, c'est-à-dire la tradition pure. Et c'était difficile de les faire se rencontrer.
Et
au fourneau, j'entends.
Et Michel Oliver, est-ce que votre grand-père vous a raconté escoffier ou est-ce qu'il ne l'a jamais connu ?
Non, il ne parlait pas. Oui. Il ne parlait pas. Tous les après-midi, il me disait, il y avait donc la salle de restaurant, quelques marches qui descendaient sous une véranda. Et sur la gauche de cette véranda, il y avait son bureau. Et tous les après-midi, quand j'étais là, il me disait, Michel, je vais dans mon bureau écrire le livre de cuisine dont tu hériteras. En fait, il allait dormir l'après-midi. Je n'ai pas retrouvé une seule recette écrite de grand-père. Il savait tout. Puisqu'il avait tout, il avait commencé donc à 14 ans, il savait tout par cœur. Il n'avait pas besoin d'un livre pour s'exprimer, quoi, ou pour aller plus loin.
Et Michel Oliver, son geste, quel était-il, c'est en termes d'harmonie.
C'était le geste d'un chirurgien, c'était le geste d'un peintre. C'était le geste de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, exactement ce qu'il fait, à quel endroit il faut poser le couteau, ce qu'il faut ajouter comme sel, comment terminer une sauce. C'était grand-père, quoi.
Et ça, quand vous le regardiez, c'était de la fascination, de la curiosité
C'était l'admiration, d'abord, de voir... Parce que c'est pour un homme, qu'est-ce qu'un cuisinier ? C'est un magicien. On va lui donner... un peu à ce cuisinier, du beurre, et il va transformer ça, et il va vous servir à partir de matière morte un plat vivant. C'est pas beau ? Il a sorti le lapin du chapeau. C'est ça, la cuisine.
Le lièvre à la royale, même.
Le lièvre à la royale.
Il jouait les grands plats d'Escoffier ?
C'était Langon, quand même. C'était pas...
C'était pas
la capitale. Donc, à part le lièvre à la royale, à part les ortolans, à part tout le gibier sur lequel il pouvait s'exprimer davantage que sur le reste, parce que le reste c'était bien, mais c'était il avait une étoile, hein, une étoile Michelin. Il en a eu deux à un moment. C'est quand même pas mal. Donc les gens s'arrêtaient, venaient pour ça. Mais c'était une cuisine d'instinct aussi, parce qu'il a, mais une cuisine très travaillée. Il n'improvisait pas une recette comme mon père les improvisait. C'était pas son truc.
Michel Oliver, nous allons quitter ces années d'avant-guerre, quitter votre grand-père et vos 14 ans pour se retrouver demain dans un deuxième épisode à voix nue où on va être à Langon pendant la guerre. Alors là, on sera avec votre père, votre grand-père.
On sera avec ma mère aussi, il faut parler un petit peu. On sera avec mon grand-père. Mon père était quand même à Langon en partie, puisqu'il faisait passer les Juifs de l'autre côté pour la zone, évidemment gratuitement, il n'a jamais touché un centime pour ça. Et puis quand il a été poursuivi par les Allemands, il est parti à Vidauban.
Donc je vous dis à demain, Michel Oliver.
Avec plaisir.
Voix nue, réalisation Anne Pérez Franchini, prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poinsignon. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.